Voilà, ça devait arriver, les éclaireurs du numérique ont enfin un sponsor.
Ah ouais ? C'est vrai que c'est pas gagné vu ce qu'on dit dans le podcast.
Vous voulez dire qu'on n'est pas assez bankable, les gars ? Bon, c'est qui ce sponsor ?
Allez, si je vous dis acheter, échanger, emprunter et stacker, du verbe stacker, des cryptos de manière sécurisée.
On cherche quoi, une solution ?
Ah bah écoute, la meilleure tant qu'à faire. Ledger ?
Exactement, c'est Ledger.
Ah oui, carrément. Une des boîtes tech françaises contre lesquelles même moi, je ne saurais pas quoi dire de mal.
T'as tout compris, Fabrice. Avec leur wallet, en fait, tu possèdes véritablement tes cryptos et tu pilotes tout. Tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et avec facilité.
Attends, faudrait que je me fasse une idée du truc moi-même. T'as plus d'infos ?
Bah écoute Fabrice, tu ouvres ton navigateur préféré, tu tapes ledger.com et tout y est expliqué, c'est très bien fait.
Et donc, on dit merci qui ?
Eh ben merci Ledger alors !
Et ben voilà. On va avoir dans l'année qui vient des actes militants en ligne qui vont montrer cet écart de compétences d'un côté comme de l'autre et ça va être catastrophique.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Bonjour à tous et bienvenue, ce sont les éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec toujours les mêmes. Fabrice Eppelboin, salut Fabrice.
Salut.
Damien Douani, salut Damien.
Bonjour.
On parle aujourd'hui de social listening, bref, les oreilles dans les réseaux sociaux que veut implanter le gouvernement français qui a lancé récemment un appel d'offres de 2,8 millions pour accorder à 3 spécialistes de la veille sur les réseaux sociaux des budgets pour traquer un petit peu ce qu'on pense globalement sur les réseaux sociaux des activités du gouvernement, des pensées du gouvernement, des actions du gouvernement. J'ai envie de vous poser là une première question très naïve. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le gouvernement ne traquait pas ce qui se passait sur les réseaux sociaux jusqu'à présent ? C'était le dernier à faire ça dans le monde ?
Eh ben apparemment oui.
Non, je crois qu'au Botswana, il ne traque pas non plus.
Non, parce que franchement, c'est une surprise pour tout le monde. Tout d'un coup, le gouvernement se décide à regarder ce qu'on pense de lui sur les réseaux sociaux. Non, mais franchement, ça ressemble à une blague, non ?
Bah, il s'équipe, hein. Manifestement, il s'équipe, hein, puisque d'abord, ce n'est pas une blague. Donc, c'est le SIG, hein, très exactement, pour préciser le truc. Pour
le service d'information du gouvernement,
c'est oui. C'est ça. En fait, c'est une cellule qui est rattachée au Premier ministre, qui existe depuis pas mal de temps, hein, et qui a 3 objectifs. Ça a pour objectif d'analyser l'opinion publique. Et le traitement médiatique de la politique gouvernementale, ça relaie les actions de gouvernement et ça permet de piloter la communication gouvernementale. Ça, c'est le rôle du SIG, c'est une sorte de super, on va dire, service de com, de veille, rattaché au Premier ministre. Et donc, c'est logique que ce soit chez eux. Ce qui est étonnant, c'est que, pour tout vous dire, ça fait un petit moment quand même que ça traîne ces histoires-là. Maintenant, il y a en prescription, donc je peux vous le dire, mais aux alentours des années 2010, un truc comme ça, un peu plus, je suis intervenu chez eux pour leur expliquer ce que c'était que Twitter.
Ah oui.
Ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, ils avaient besoin. Donc, je leur ai fait une présentation assez générique, expliquer ce qui se passait sur Twitter. Donc, à l'époque, il n'y avait que des geeks, des communicants, des journalistes et quelques politiques. Hein. Il n'y avait rien vraiment de... Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et très clairement, ils étaient intéressés. Mais quelques temps après, il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place. C'était sous Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient une sorte d'échelle de Richter, qui était plutôt bien foutue. En gros, des paliers, on va dire, au-dessus duquel, dès qu'il y avait un sujet qui commençait à bruisser un peu trop, à buzzer et qui passait certains caps, et ben là, ça leur permettait d'avoir un peu des alertes et des traitements sur ce qu'il fallait faire. Donc, ça veut dire qu'ils avaient quand même des outils pour regarder. Mais manifestement, ce n'était pas d'ampleur de ce qu'ils ont fait là dans cet appel d'offres.
Mais attends, ils sont passés où ces outils ? Ils ne servent plus ?
Probablement, ils doivent les jeter à chaque nouveau gouvernement. Parce que j'ai souvenir d'avoir rencontré les SIG à peu près à cette même période. Et d'avoir eu à l'époque affaire à des gens qui étaient plutôt curieux, à l'écoute et qui étaient effectivement en train d'essayer de construire ce genre de choses. Mais à l'évidence, c'est passé à la poubelle.
Moi, je pense qu'ils expérimentaient. C'est en fait, autrement dit, comme dit Fabrice, il n'y avait rien, tu vois, vraiment de cadré. Quoi. C'est en gros, certainement qu'ils avaient piqué la carte bancaire, ils ont fait une note de frais pour pouvoir s'inscrire, tu vois, sur un outil de veille. Et ils ont commencé à regarder un peu ce qui se passait. Mais je pense que rien n'était vraiment, de manière très surprenante, hein, rien n'était vraiment structuré dans des grandes largeurs.
Oui, mais bon, c'était il y a 12 ans. Hein. Il y a 12 ans, quand même. Oui.
Blague à part, si tu compares avec des entreprises... Il y a pas mal d'entreprises qui sont équipées aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le social room, donc en gros des pièces hein, qui ont l'objectif de faire la même chose. Mais c'est dévolu quand même à des grandes entreprises et toutes ne sont pas équipées, ou c'est assez récent. Quand je dis assez récent, c'est sur ces dernières années, parce que c'est quand même un certain investissement. Donc, nous, on baigne dans ces trucs-là, mais l'écoute vraiment et la compréhension de tout ça, bah, je pense que c'est un truc qui, finalement, ils le comprennent, c'est dans l'air du temps, c'est là, mais... ils n'ont pas manifestement conscience que ça peut être vraiment industrialisé, si on peut dire. Et je pense que, alors c'est une pure supputation de ma part, hein, mais ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, ceux dont on a parlé plein de fois dans ce podcast, qui sont principalement quasiment nés sur Facebook, et donc sur la non-surveillance, quand je dis surveillance, c'est au sens, pas au sens Darmanin du terme, mais au sens regarder ce qui s'y passe et voir s'il y a des signaux faibles, bah manifestement, voilà, ils sont complètement passés à côté. Donc là, ils se disent que peut-être il faut... là où c'est surprenant, c'est le timing. À un an de la présidentielle, c'est-à-dire la collusion entre le gouvernement qui veut savoir ce qui se passe, et bien sûr, la potentielle candidature de Macron, et quand même, enfin, je veux dire, voilà, le timing... si c'est pas un hasard, c'est très mal trouvé, quoi.
C'est bêta parce que les gilets jaunes, hein, qui ont été quand même massivement censurés sur Facebook, sont pour beaucoup, ils sont allés sur WhatsApp, sur Signal, et là, pour le coup, ça n'est pas du tout possible de surveiller ce qui se passe là-dedans.
Et on en a parlé la semaine dernière. Tiens, l'appel d'offres, précisément dit, il s'agit d'avoir une fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis de son action en particulier et de l'actualité en général, pour être précis. Bon, franchement, mais ça semble complètement délirant en mai 2021 qu'on en soit à faire ce constat qu'il faut surveiller ça, regarder un peu ce qui se passe, qui n'a rien à voir avec de la surveillance.
C'est classique.
Ce sont des oreilles, simplement, qui regardent un petit peu ce qui se dit.
Non, par contre, c'est pas totalement idiot dans l'optique d'une élection présidentielle, honnêtement. Hein, ça... Alors bon, d'accord, c'est ça...
Non, c'est très classique.
C'est pas très rigoureux d'un point de vue compte de campagne, mais objectivement, c'est quelque chose que tous les candidats devraient avoir, et il n'y a pas beaucoup de candidats qui peuvent se permettre un dispositif de social listening à 3 millions d'euros.
C'est clair. Mais après, sur le papier, le nombre d'entreprises qui font ça, c'est d'une banalité affligeante, hein, on va être très clair. Hein. Et donc, comme tu dis, Fabrice, c'est le montant qui est important. Parce qu'il faut savoir quand même que, pour vous donner un ordre d'idée, de comparaison, hein, le budget du SIG, c'est 14 millions d'euros. 14,2 de mémoire en 2021. Donc ça représente quand même un 3 millions sur 14,2.
C'est 20% à peu près du budget.
C'est quand même pas mal, hein, c'est pas négligeable. Oui, quand un budget te représente, un poste représente 20% de ton budget, c'est pas petit, quoi.
Oui, puis on se doute bien qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qui va servir le gouvernement, mais de servir ce qui va se passer en 2022, là, très clairement.
Oui. Et alors après, c'est une banalité affligeante que de dire on va surveiller ce qui se raconte sur les sujets chauds, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est. Alors, est-ce que Gabriel Attal derrière ça? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez noté, mais ce cher Gabriel, qui aime beaucoup les réseaux sociaux, a essayé de donner un tournant réseaux sociaux au gouvernement entre Gabriel Attal sur Twitch, Cédrico sur Clubhouse. Je pense très sincèrement, mais c'est vraiment à nouveau une supputation personnelle, que nos politiques en général sont déconnectées de tout ça, à part si on leur parle de surveillance généralisée et informatique, les mecs ils frissonnent, mais sinon à part ça, ils n'ont pas conscience vraiment de ce qu'ils peuvent en retirer. Et je ne trouverais pas idiot de dire que des gens comme Attal ou autre a pu peut-être arriver à un moment les sensibiliser, de leur dire « Non mais les gars, vraiment, il faut faire quelque chose un peu plus pro, quoi. Il faut arrêter de mettre trois mots, trois alertes dans Google Alert, quoi. Il faut essayer de faire ça de manière industrialisée. » Et c'est très clairement l'objectif de cet appel d'offres.
Et puis, il serait peut-être temps de commencer à surveiller un tout petit peu ce que font en face les rassemblements nationaux, parce qu'eux, ils sont très, très actifs sur les réseaux sociaux, et que peut-être que si ça se trouve, en fait, on a un gouvernement qui ne regarde pas ce qui se passe du côté de la candidate qui pourrait quand même mettre en péril leur candidat. C'est pas vrai, Fabrice ?
Alors oui, d'autant plus que, je passe ma vie à le répéter, mais la caractéristique de l'extrême droite, hein, sur les réseaux sociaux, c'est que les mecs, ils ont débarqué sur Internet à la fin des années 90 quand on les a foutus à la porte des médias traditionnels. Donc ils ont débarqué à l'époque des pages perso, ensuite ils sont accaparés les blogs, ensuite ils sont accaparés les premières versions des réseaux sociaux, Friendster, ce genre de trucs, MySpace, Facebook. Donc le résultat, c'est qu'ils sont là depuis une génération. Si vous êtes dans une famille de ce qu'on appelle vulgairement les fachos, très concrètement, bah, vous avez appris vos pratiques militantes de vos parents. Alors que si vous êtes dans une famille qui vote République En Marche ou socialiste ou républicain, très concrètement, vos parents, ils ne savent absolument pas ce que c'est que le militantisme en ligne. Donc vous l'avez appris sur le tas. Ça fait une énorme différence et une énorme différentielle dans la capacité de faire du militantisme en ligne. Il faut dire que, à part l'extrême droite, le militantisme en ligne, aujourd'hui, ça consiste à cracher à la gueule de l'adversaire. Et cracher à la gueule de quelqu'un, ça ne l'a jamais convaincu d'aller voter pour vous. Donc il y a un vrai problème d'incompréhension. Alors modulo le fait que à la France Insoumise, quand même, eux, ils ont certaines expériences et ils ont facilement 10 ans d'expérience dans les pattes. Donc là-dessus, il y a un vrai savoir-faire qui est malheureusement contrebalancé par beaucoup d'agressivité gratuite. Mais en dehors d'eux, on a affaire à des gens qui ne savent absolument pas faire du militantisme en ligne et qui sont encore en train de reproduire du militantisme traditionnel en essayant vaguement de le transformer digitalement. Moi, j'ai l'exemple fantastique de mon père. Mon père est entre autres un informaticien, c'est un cristallographe et informaticien. Il a été là au tout premier pas de l'informatique en France, c'est un vieux monsieur maintenant. Et l'âge aidant, il a basculé et il a terminé par faire la campagne de Macron, ce qui lui a valu d'être trollé par ses enfants pendant toute la campagne. Tout simplement parce que le mec est arrivé dans son club de troisième âge à Saint-Mandé, a dit « Youpi, je voudrais participer à la campagne et j'ai quelques compétences en matière d'Internet ». C'est vraiment un crack. Hein, et ils ont trouvé cette compétence Internet, ils lui ont dit « Ok, si t'es bon en Internet, eh ben, tu vas copier-coller les statuts de Macron dans ton poste, dans ton statut Facebook ». Ça correspond vraiment à... je me souviens d'une anecdote où le même père arrivait au service militaire, il avait déjà, je crois qu'il avait 3 doctorats, dont un en physique nucléaire, et on lui a fait récurer les chiottes. Bon, c'était drôle, parce qu'effectivement, le coût du service militaire à la française, où t'as 3 doctorats, tu vas récurer les chiottes, c'était un grand classique. Mais on lui a fait faire exactement la même chose en termes de militantisme online, alors qu'il aurait pu faire bien mieux que ça. Il y a une incompréhension de ce que c'est que le militantisme qui est catastrophique chez ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Alors que les partis de pas gouvernement, en tout cas jusqu'ici, c'est-à-dire grosso modo l'extrême gauche, l'extrême droite, là-dessus, il y a déjà beaucoup plus d'expérience et de réflexion. Et on va voir dans l'année qui vient des actes militants en ligne qui vont montrer cet écart de compétences d'un côté comme de l'autre, et ça va être catastrophique.
Ce qui n'empêche pas certains membres de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou affiliés d'hurler au scandale, à la surveillance généralisée sur ce qui est simplement le fait d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion totale alors qu'il y a d'autres sujets dont on a déjà parlé et dont on parlera encore qui sont infiniment plus importants en matière de surveillance?
Mais en même temps, ils sont dans leur rôle. Mais surtout, le vrai scandale, il n'est pas là. Le vrai scandale, il est que La République En Marche paye 3 millions d'euros de dispositifs de social listening pour une campagne et que ça ne sera pas dans les comptes de campagne. Là, il y a un vrai scandale.
Exactement, le vrai truc, il est là.
Parce que c'est clair que ni le Front National ni la France Insoumise ne seront en mesure de se payer un tel dispositif.
Mais très clairement.
Alors, il faut signaler quand même que dans les 3 millions, il y a 1,7 million pour VisiBrain, qui est une boîte française, qui fera donc de la mesure d'impact des contenus publics accessibles en ligne, donc ça, c'est large au possible, 900 000 pour Newsweep, qui est basé en Irlande, et 220 000 pour Talkwalker, qui est une entreprise basée au Luxembourg. Donc...
Attends, ça veut dire que sur les 3 entreprises, il y a 2 séparatistes, hein, Irlande et Luxembourg.
Oui, monsieur, avec des taux de TVA réduits.
Non, mais attends, on n'était pas censé lutter contre le séparatisme?
Ou l'évasion fiscale?
Ah, ça, c'est le bon séparatisme et le mauvais... Oui, pardon, j'oublie.
C'est le bon séparatisme, celui-là.
C'est le bon séparatisme. c'est comme les influenceurs à Dubaï, c'est des bons séparatistes. Je m'y perds. Autant pour moi.
Bon, finalement, oui, on a dit l'essentiel, je crois. L'essentiel, c'est que c'est assez douteux quand même de lancer ça à quelques mois ou une année des élections, alors qu'on se doute bien que ça va être un appareil qui va servir un parti, le parti au pouvoir, et que c'est une confusion des genres qui est assez dérangeante quand même dans la période qui arrive. C'est à peu près ça qu'on peut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient majeures là-dessus, Damien ?
Moi, ce qui m'atterre, c'est de voir les réactions de certains candidats en face. Alors bien sûr, il fait sa pub, hein, Nicolas Dupont-Aignan qui hurle en disant qu'il s'agit... Alors bien sûr, là, il a raison, qu'on utilise l'argent du contribuable, mais bon, il s'agit à terme d'encadrer, de fermer, de surveiller, de ralentir la progression de la liberté. Nicolas, on ne l'a pas entendu sur les boîtes noires dont on parlait la semaine dernière. Nicolas, je pense qu'il n'a même pas idée de comment ça s'est passé avec Palantir et l'élection de Trump. Bon, voilà, c'est pas quand on va surveiller des tweets et des statuts Facebook. Je pense pas, si vous voulez, que ce soit là où on va. C'est pas par ce moyen-là qu'on va arriver à museler la liberté d'expression. Je pense vraiment pas. Je veux bien qu'on soit un peu critique ou un peu acerbe et ironique ici, mais connaissant bien le sujet, franchement, ce qu'on en retire très souvent, c'est qu'on en voit des tendances. C'est comme si on faisait une sorte de revue de presse. Mais c'est une revue de presse version digitale. Et on arrive à en comprendre les tendances, on essaie de voir aussi les orientations. Alors là où ça peut être intéressant, en revanche, et Fabrice connaît bien le sujet, c'est tout ce qui est astroturfing. C'est en gros le fait de dire, sur un sujet donné, est-ce que, si par exemple il y a un emballement autour d'un sujet, est-ce que c'est un emballement réel, massif et populaire, ou est-ce que ce sont des comptes qui se renvoient entre la balle, et qui très souvent sont plutôt d'extrême droite en général, et qui eux-mêmes d'ailleurs allument la mèche. Et ça, par contre, il faut des outils comme ça, qui sont capables de faire des cartographies précises de où est l'épicentre de démarrage et où sont ensuite la manière dont il y a les cercles concentriques de diffusion.
À ceci près que typiquement des gens comme Nicolas Vanderbilt font ça avec 3 francs 6 sous, 2 lignes de Python.
Complètement.
Et il a vraisemblablement un budget de quelques milliers d'euros par an, tout au plus, pour faire effectivement de la détection d'astroturfing, ce qui fait très bien.
Mais c'est pour ça que je souhaite que ces boîtes, j'espère que le gouvernement aura ce type de précision-là comme propose Nicolas, sinon ils se sont fait avoir dans les grandes largeurs.
Ah, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable.
Oh, mais ça n'arrive jamais, ça. Se faire avoir avec des prestataires, non.
Non. Surtout quand il connaît rien. Non.
Alors moi, ceci dit, je note un truc, hein, c'est que en tant qu'influenceur que nous sommes, on n'est ni en Irlande ni au Luxembourg, alors que tout le monde se barre à Dubaï. Donc peut-être qu'on pourrait faire un podcast à Dubaï. Hein. Mmh. Ça pourrait être bien.
Ah, maintenant qu'on a un sponsor et que donc on est riche et qu'on se partage des millions chaque semaine, je pense que Dubaï s'impose maintenant. Hein.
Pouf.
Bah ouais.
Moi je pense qu'il faut qu'on défisque à mort, il faut qu'on aille à Dubaï. Ah ouais, clairement, allons-y, wow, c'est la fête.
Tous à Dubaï.
Allez, yes. Tous à Dubaï.
Et après les Marseillais à Dubaï, les geeks à Dubaï, ouais, ça va être génial.
On va voir si la semaine prochaine on sort de confinement ou pas, et puis si on est à Dubaï ou pas, ça sera la surprise. C'est une sorte de teasing là, pour la semaine prochaine en fait. Bon, salut les gars, préparez vos passeports et vos maillots de bain, d'accord?
Ça marche.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.